C'est très émouvant déjà de toucher les papiers. C'est un homme du 19e siècle. Donc, c'est une écriture sergent-major. J'appelle ça comme ça, parce que très belle, une très belle graphie. Et ce poème s'intitule « Faiseuse d'ange ». Qu'est-ce qu'il y a marqué là ? L'abîme ?
C'est le premier mot qui est le plus difficile.
Oui, c'est le mot est énigmatique. L'alcôve, hein, c'est ça ?
C'est l'alcôve, je pense aussi. Hein.
Alors, partons pour l'alcôve. L'alcôve est sombre et sur le papier blanc du mur, les anges vers les cieux s'en vont à tire d'aile. Deux femmes.
Deux femmes. L'une ouvrant large son escarcelle, l'autre y laissant glisser de l'or qui sonne pur. De grands volets feutrés font se réduire obscur. Seule une flamme tremble au bout d'une chandelle. Alors la vieille dit « N'ayez pas peur, ma belle. J'ai 20 ans de pratique et le pouce encore sûr. » Sous un vieux baldaquin d'un ton vaguement bleu, la femme est étendue et la vieille, en silence, fait un ange de plus pour la droite de Dieu. Eh bien, messieurs, peut-on connaître de quel droit vous vengez le fœtus de ceux dont la naissance n'avait pas trouvé place à l'abri de vos lois ?
Il y a déjà le redresseur de tort.
Pierre Assouline, journaliste et biographe d'Albert Londres.
Il y a évidemment le poète, hein, parce qu'il est jeune quand il écrit ça. Mais il y a déjà celui qui interpelle les puissants. Et c'est lui, quoi.
Albert Londres, le journalisme avec vue, 1884-1932. Un documentaire d'Antoine Tricot, réalisé par Somanina. Albert Londres a voulu voir le monde. De Vichy à la Russie, de la Chine à l'Argentine, de l'Italie à l'Algérie, du Japon à la Palestine, ce grand reporter n'a cessé de repousser la ligne d'horizon de ses lecteurs français. « Au début, tout est neuf, dit-il. » Après 2 mois, tout devient du déjà-vu. Alors Albert Londres va fouiller ailleurs, dans les angles aveugles de la société française. Le tournant a lieu en 1923. Avec son fidèle rédacteur en chef, Élie-Joseph Bois, ils signent ensemble un coup de maître dans le journal Le Petit Parisien. Albert Londres rapporte de Guyane une série de reportages mordants qui font éclater au grand jour l'injustice faite aux criminels que l'on a envoyés à Cayenne sans espoir de sortir du bagne. Le journaliste observe, écoute et laisse largement la parole à ceux qui subissent cette situation inhumaine. La réputation d'Albert Londres est faite et elle ne fera que s'amplifier jusqu'à sa mort mystérieuse en 1932.
Je peux vous le décrire, mais si vous voulez, pour le décrire, je peux prendre aussi cette description que l'on a ici.
Marie de Colombelle, présidente de l'association Maison Albert Londres.
Ça, c'est Béraud, voilà.
Henri Béraud, qui était donc son ami de jeunesse, qui est devenu journaliste.
Oui, qui est devenu journaliste. Et alors, voilà, un jour, nous vîmes s'asseoir à notre table un garçon fin et maladif, d'une pâleur nacrée. Une barbe légère encadrait son visage, où l'on ne voyait que 2 grands yeux, d'une tendresse féminine et d'une rare beauté. Pouvions-nous penser que ses yeux deviendraient ceux d'un coureur des routes et qu'ils se fermeraient aux lueurs d'un drame terrible ? Alors, surtout, ce qu'il disait, c'est que Albert incarnait, alors, avec une miraculeuse exactitude, l'idéal des dernières grisettes. Il eut ce privilège, entre tous enviés, d'être à chaque pas de sa route exactement l'homme attendu. À l'âge des premiers amours, comme à tous les âges de sa brève existence, il n'eut qu'à se laisser vivre pour triompher. Ça le décrit tout à fait, en fait. On voit que tout au long de sa vie, il a attiré beaucoup. Bien sûr, les femmes, ça c'est certain qu'il était très sollicité, mais aussi, il avait cette capacité de séduire, on va dire, ses interlocuteurs.
Il ressemble donc à un jeune poète, c'est-à-dire le cheveu un peu ébouriffé.
Hervé Brusigny, journaliste et président du prix Albert Londres.
Le regard, je dirais, tourné vers ailleurs. En fait, Albert est un personnage très dans sa rêverie. Il est dans sa langue. C'est profondément un poète, très profondément un poète. Et il adore cette langue. Et il va évoluer physiquement au rythme de ses cartes de presse. Et peu à peu, on va voir ce jeune poète se muer en reporter.
Je suis allé au bagne. J'ai fouillé Biribi. J'ai pénétré dans les maisons de fous. Je reviens de Buenos Aires. Pourquoi ? Pour vous raconter des histoires. J'en sais de plus attrayantes. L'homme qui depuis 15 ans sans arrêt roule par le monde n'est pas à court d'histoire. J'ai voulu descendre dans les fosses où la société se débarrasse de ce qui la menace ou de ce qu'elle ne peut nourrir. Regarder ce que personne ne veut plus regarder, juger la chose jugée. Je n'ai pas cru devoir dormir en paix sur le doux lit de la loi. J'ai pensé qu'il était louable de prêter une voix, si faible fut-elle, à ceux qui n'avaient plus le droit de parler. Suis-je arrivé à les faire entendre? Pas toujours. Ceux qui vivent sans chaîne, sans contrainte, ceux qui mangent tous les jours, font un tel vacarme pour leur propre compte qu'ils ne perçoivent pas les plaintes qui montent d'en bas. Quand on leur demande un peu de silence, ils répondent qu'ils n'en ont pas le loisir. Ils croient même qu'ils n'en ont pas le devoir. Si je me trompe, je préfère me tromper à ma façon que de ne pas me tromper à la leur.
L'appartement où est né Albert Londres, c'est cet espace ici. Ça, c'était l'appartement où il vivait donc avec le frère de la mère d'Albert Londres, le mari donc de la mère d'Albert Londres, le papa d'Albert Londres, et c'est là que le bébé est né. Donc, vous voyez, il y avait quand même 5 adultes, plus donc le bébé qui vivait ici dans cet espace, qui est assez, enfin, disons, confortable, mais relativement réduit quand même.
Marie de Colombelle, quel type de ville était la ville de Vichy quand Albert Londres y a grandi?
Alors, c'était une ville flamboyante parce que venait à Vichy le monde entier, hein, puisque c'était la ville de cure. Donc, vous aviez beaucoup d'étrangers qui étaient à Vichy. Il y avait le roi du Maroc, il y avait des Maharajas, il y avait des Chinois. Les gens fortunés venaient donc à Vichy. À tel point que, si vous voulez, Vichy, à l'époque, n'était que des hôtels et que des pensions de famille. Où, sur la saison d'été, c'était presque 110 000 personnes qui étaient à Vichy, alors qu'en hiver, c'était à peu près 15 000 personnes. C'est vrai que ça peut que interpeller un jeune enfant de côtoyer toutes ces personnes. Dès qu'il en a eu les moyens, je pense que c'est vraiment ce qui l'a poussé à aller voir le monde un peu plus loin, sortir donc de l'Hexagone. Il était parti à Lyon, il avait 17 ans. Il a rencontré là, à ce moment-là à Lyon différents amis qui sont devenus célèbres, Charles Bullin, Henri Béraud, et puis Georges Rouquayrol, qui était dessinateur de presse et qui l'a suivi dans certains de ses reportages. Donc ils touchent des jeunes de 17-18 ans et qui donc faisaient des vers, rêvaient donc de gloire, et la gloire ne pouvait s'obtenir, se gagner qu'à Paris. Donc Albert Londres est parti à Paris. Et là, il a été suivi par une jeune compagne, donc qui était Marcel, et ils se sont installés à la cité Bergère à Paris, et ils ont très vite été rejoints par les trois autres compères qui sont également montés donc à Paris.
La mort de sa compagne Marcel en 1905 laisse Albert Londres seul avec leur fille Florise, âgée de quelques mois. C'est elle qui crée dès le décès de son père le prix Albert Londres, et qui le portera ensuite durant toute sa vie. Avec quelques grands reporters de l'époque, Floris fait de cette récompense le prix de référence du journalisme français, à tel point qu'on a oublié peu à peu l'œuvre et la vie de celui qui lui a donné son nom. Car Albert Londres n'est pas uniquement le journaliste à la plume acérée, qui secoue les puissants et transforme la société. Premier personnage de ses récits, il est un homme du début du XXe siècle, qui se regarde lui-même avec clairvoyance, sans cacher au lecteur ses échecs et ses contradictions. Un modèle de journalisme humble et lucide.
Il arrive à Paris en 1903 et dès 1906, il fréquente les salons du poète François-Joachim Coppé. C'était un dramaturge, un romancier, un académicien. Donc il était chantre du peuple, chantre des faubourgs parisiens.
Joanna Capi, docteur en sciences de l'information.
Donc Albert Londres, durant cette période, il côtoie des littéraires et des artistes. Et il publie aussi 3 recueils de poésie. Et c'est loin d'être anecdotique, parce que cette passion pour la poésie, et pour la littérature en général, elle est importante dans l'histoire de son œuvre. Elle va dessiner chez lui une certaine sensibilité au monde. Donc à Paris, Londres, il fréquente une société de lettrés, et cet entourage, il va l'encourager à rêver d'un ailleurs, et aussi à se faire un nom dans la capitale. Donc il va travailler un temps aux Faits divers, pour le salut public, et ensuite il entre au Matin et il devient rapidement en fait un rédacteur politique, correspondant aux Échos parlementaires, c'est-à-dire qu'il rédige les chroniques de l'hémicycle, les affaires traitées par les députés du Palais Bourbon. Il doit restituer une atmosphère nerveuse des débats du Parlement. Donc la poésie et la politique, ce sont les deux premiers attributs de l'écriture albert-londrienne.
Pierre Assouline, quels sont ses premiers voyages en tant que reporter ?
La cathédrale de Reims, qui est le voyage fondateur, donc pendant la Première Guerre mondiale, c'est vraiment là qu'il devient grand reporter. Sa seconde naissance, à mon avis, c'est là. Il est au journal, il est journaliste débutant, c'est la chance de sa vie, et on lui dit... On a une dépêche comme quoi la cathédrale a été bombardée par les Allemands à Reims. Il faut faire quelque chose, il faut y aller, mais il n'y a pas le moyen d'y aller. Ben lui, il prend son vélo et il y va. Et quand il arrive, il fait son premier reportage et c'est éblouissant.
Ils bombardent Reims. Ils ont bombardé Reims et nous avons vu cela. Il a le sens de la formule tout au long de ses articles. Il fait partager. Il a tout de suite le mot pour... capter l'intention du lecteur. Alors, nous venions d'Épernay, notre cœur déroulant sans cesse en nous les multiples vues de la guerre, nous allions sans quiétude, mais sans déchirement nouveau. Cette partie de la Champagne avait retrouvé son silence, nous espérions ne plus souffrir aujourd'hui. La route montait, se détournait, traversait les bois, et nous laissions descendre doucement dans l'oubli, comme l'on met un liminant sur une plaie. Reims nous apparut à 15 kilomètres. La cathédrale profilait la majesté de ses lignes et chantait dans le fond de la plaine son poème de pierre. Nous ne la quittâmes plus des yeux. Nous avancions. Notre ami nous frappa brusquement du coude. « Regardez, nous dit-il, ça fume !» Ça fumait. 3 centres d'incendie se signalaient. Le sous-préfet de Reims, revenant vers sa ville, s'arrêta près de nous. « Je ne me rends pas compte des coins qui brûlent, nous dit-il. » Nous étions 5 hommes qui ne parlaient plus. Alors, on peut dire que le 19 septembre 1914, Albert Londres était inconnu, et le 21, il était pas encore célèbre, mais reconnu. Puisque, en fait, ce qui a vraiment fait de l'effet sur le lecteur du Matin, ça a été justement, on va dire, la sensibilité qu'Albert Londres a fait dans ce texte-là. Parce qu'il aurait très bien pu dire, voilà, la cathédrale a été touchée. Mais bon, sa façon de présenter les choses, tout ce côté très poétique, les phrases très ciselées, donc très rythmées, ont fait que... ajouté à l'émotion que le lecteur a eue du fait de l'attaque d'une cathédrale, qui était la cathédrale où on sacrait, bien sûr, les rois de France. Donc, c'était quelque chose.
France, depuis le temps que je t'avais quitté, je n'avais pas vu qu'on avait massacré tes maisons, tes églises, tes cathédrales, qu'on avait coupé tes arbres comme on rase les cheveux d'un criminel, qu'on avait vidé tes villes et tes hameaux. Je n'avais pas vu ce que ces trois rudes années avaient déposé chez tes soldats de sérieux dans les yeux et de croix sur les poitrines. Je l'avais su. Je ne l'avais pas vu. Aussi, que ceux qui n'aperçoivent plus distinctement le paysage tragique de la guerre, parce qu'il leur est trop familier ou qu'ils en sont trop loin, viennent avec moi. Je vous emmène.
Je vous emmène. Ce 7 juillet 1917, Albert s'adresse, et c'est assez rare, parce qu'il parle de son métier au lecteur. On voit bien, là, l'idée de l'homme témoin qui escorte en quelque sorte cet autre témoin citoyen qu'est le lecteur. C'est un homme du regard, un homme de l'œil. Et vous savez, en ce sens, il rejoint à mes yeux une tradition presque antique. C'est-à-dire que Hérodote, par exemple, quand il part sur le terrain, il dit ce qu'il voit. Et donc, quelque part, Albert Londres est en lien avec une tradition, pour le coup, ancestrale du récit, parce qu'il a la légitimité d'être allé. On peut voir parce qu'on est allé sur le terrain. Et donc, Albert Londres, c'est le fondement même du journalisme reporter, de reportage, parce que il va, il voit, et la voix est quelque chose qui va accompagner le regard. Mais le primat essentiel de l'activité du témoignage d'Albert Londres, c'est « je vois et par mes yeux, je vais vous aider à voir, à montrer ».
Le petit garçon avait 11 ans. Son métier de fortune était de crier les journaux. Ce matin, il avait bien vendu. Arrêté sur le trottoir, il comptait sa monnaie. 32, 34, 35. Une bombe tomba du ciel à ses pieds. Un des éclats lui enleva un morceau du crâne. Il croula. Ses sous roulèrent dans la rue. Des passants coururent à lui, marchant dans son sang. Ils agirent pour le mieux. Une dame, geste de déchirante bonté, ramassa ses sous et vint les glisser dans la poche de l'enfant. L'enfant avait les yeux ouverts. Il dit « merci » et mourut à l'âge de la première communion.
Il ne faut pas non plus oublier qu'Albert Londres, il est lui aussi confronté à la guerre. Ça constitue un choc pour lui. Et du coup, ça favorise dans le texte un discours du particulier pour traduire ce choc. Il traduit la violence des affrontements, telle qu'il les perçoit, il traduit les villes dévastées, les corps meurtris, le moral anéanti, autant le sien que celui des troupes, des soldats.
Les difficultés du voyage aussi.
Exactement. Il dénonce déjà l'absurdité de la guerre, telle qu'il la ressent. Sur la bataille des Flandres, en 1914, il dit... 50 jours d'eau, de feu, de canons, de navires, 50 jours de gestes immenses, de cris sublimes, d'âmes qui montent, 50 jours d'une des plus grandes batailles de 1914. On a gagné 1 kilomètre. Donc vous voyez, il a l'art de construire tout un paysage, de camper une atmosphère, et puis hop, tout d'un coup, il y a une chute.
Au-dessus de Dunkerque, 4 avions ennemis passaient. Le ciel était radieusement bleu. De même, les plus beaux fronts portent souvent les pensées les plus noires. L'un sur l'autre, d'autres coups éclatent. Le monde court. Encore d'autres coups. Où on court. La ville si vide dans tous les sens. Les 4 avions tournent sur les toits. Un monsieur, planté sur sa porte, regardait le ciel à travers ses jumelles. Un coup lui arrache le bras. À chaque éclatement, la tête guidée par l'oreille va aux quatre coins de la ville. Des petites filles pleurent très fort dans la rue. On les engouffre dans un couloir. Les balles de fusil rentrent dans l'air, comme dans du feutre. C'est un bruit mat.
C'est celui-ci. Je tombe sur les passeports.
Ce qu'on appelait des passeports, c'était des laissez-passer d'une frontière à l'autre, hein, à l'époque. Et donc, il y en a plein. Là, c'est un passeport, je me demande si c'est pas tchèque, polonais, qui date de 1926. Ben oui, ça aussi, c'est très émouvant. Ce que j'aime bien, c'est les photos d'identité. Grâce à tous ces passeports qu'il a conservés, on peut bien reconstituer une sorte de chronologie de ses déplacements.
Il y a d'autres passeports ici.
Oui, alors là, c'est marrant, les passeports à l'étranger. Ça, c'était pour aller dans les pays arabes. Il n'y a pas de date. Ah si, 1930, Suez. Ben oui. Alors, 1m72, c'est bien les passeports, parce que ça nous renseigne sur la taille. C'est tout bête, hein. Et puis, ses yeux marrons, oui. Menton rond, visage ovale, teint, mat, probablement. Et là, c'est écrit en arabe. Donc, c'est probablement quand il a voulu faire son reportage sur la Mecque, et que ça n'a pas marché, parce que n'étant pas musulman, il n'a pas le droit de pénétrer à la Mecque, et qui s'est consolé en faisant un reportage sur les pêcheurs de perles. Ouais.
Les parents pensaient qu'à la fin de la guerre, il allait se stabiliser, revenir sur Vichy ou prendre donc un emploi plus stable. Et au contraire, là, il repart encore très très loin, puisque après la guerre, il va voir toutes les capitales d'Europe pour voir les effets de la guerre à ce moment-là. Donc là, on est en 1918-1919. Et là aussi, tout de suite, il part aussi en Russie bolchevique. Il y a eu plein d'épisodes pour obtenir les visas, etc. Donc là, il est déjà parti, bien sûr, quelques mois. Et là, il va rentrer donc fin 1920. Et tout de suite, il n'a qu'une idée, c'est de pouvoir repartir. Et là, il prévoit son second grand voyage de reportage qui l'emmène en Extrême-Orient. C'est là où on va retrouver, je pense, l'attrait de Vichy. Du côté cosmopolite de Vichy, qui l'a attiré, et son envie d'aller voir ce qui se passait sur l'Extrême-Orient. Il part pendant 11 mois. Lui, il disait que de toute façon, la seule façon de voyager lorsqu'on n'était pas fortuné, c'était donc de devenir... le flâneur salarié, c'est pas une expression de lui, c'est une expression de Béraud. Mais il n'y avait pas d'autre solution. C'était soit d'être marin, soit d'être journaliste. Il n'avait pas d'autre possibilité, lui, pour découvrir le monde.
Eh bien, voyez-vous, ceux qui bouclaient comme ils le faisaient autrefois, leurs valises en peau de cochon, ouais, c'est le mot qu'il employait, sont devenus de plus en plus rares. Parce que lui, je crois qu'il n'a jamais pris l'avion.
Non.
Il prenait toujours le paquebot.
Non, mais ça n'était pas très à la mode. Mon père est mort en 1932, alors...
Nous nous souvenons tous de sa mort tragique, c'était sur le Philippard.
Et puis, je ne sais pas s'il aurait beaucoup aimé l'avion. Et ce qu'il aimait dans le voyage, c'était les longues traversées, les voyages... qui durait 3 ou 4 mois, n'est-ce pas ? Il n'aimait pas aller vite. Son grand principe était un reportage par an.
Hein ? Oui.
Et il partait généralement au début de l'hiver.
Oui, nous partions tous au début de l'hiver.
Et toujours au début de l'hiver, comme novembre, nous allions dans les décembre.
Pays, dans les mers chaudes, nous préférions passer l'hiver
il
au soleil.
Il rentrait en mars ou avril, ou mai. Du reste, la dernière fois, il rentrait en mai, puisqu'il est mort le 16 mai. Et... Alors il allait dans une campagne quelconque de France ou dans un petit coin charmant et nous allions tous avec lui. Hein, Et il allait travailler là. Il allait faire ses articles pendant 3 mois, 2 mois. Alors, de temps en temps, il recevait des coups de téléphone hurlant, n'est-ce pas, des Joseph Bois, lui disant « Alors quoi, qu'est-ce qui se passe? Moi, je commence, où en êtes-vous » Il lui répondait « Je n'admets pas comme téléphone tant que je n'ai pas terminé.
Ça, c'est toutes les cartes postales qu'il a pu envoyer pendant son voyage. Le voyage de 1920, c'est là où il part en Extrême-Orient. Port Saïd, c'est l'Égypte, ça c'est l'Inde. On trouve des cartes postales en couleur. Et voilà, j'ai acheté la collection des nouveaux timbres français en circulation depuis un mois. Oui, c'est ça. Je les enverrai à la prochaine escale.
Il fait beau.
Il fait beau. Le bateau repart à minuit. Bis. Alors ça, c'en est une autre, peut-être une autre année. Candy, je me rembarque le 27, je serai le 14 à Marseille et je filerai sur Vichy. À bientôt.
Une lettre.
Qui date de mars 1915 et qui est en tête de la taverne de l'Ermitage, boulevard de Clichy, donc à Paris. Là, il écrit à ses parents. À l'heure où vous recevrez cette lettre, je serai à Marseille. Je pars en Turquie comme correspondant de guerre du Petit Journal. Oui, le Petit Journal. Le Petit Journal m'a fait appeler hier mardi, ayant appris que j'avais donné ma démission du matin. C'est génial, hein, parce qu'entre parenthèses, c'était une époque où on donnait sa démission d'un journal le matin et le soir, un autre vous engagez. Ça n'existe plus depuis longtemps, ça. Stéphane Pichon, qui était le directeur du journal, m'a demandé ma collaboration. En plus, un directeur de journal qui vous sollicite, le rêve. J'ai soumis donc l'affaire de la Turquie. Le corps de débarquement français part de Toulon. Je partirai avec lui. L'affaire a été acceptée aussitôt. Le Petit Journal, imitant le Petit Parisien, fait un grand effort. Il m'a demandé d'y collaborer. Je rentre par la grande porte. Dans 3 semaines, vous pourrez m'y lire en vedette.
Hervé Brutigny, dans quel état est la presse à la fin de la Première Guerre mondiale et dans les années 20 quand Albert Londres écrit pour elle ?
Elle se porte mal. Elle se porte mal parce que elle a été discréditée de par la censure qui a régné pendant la Première Guerre. Il y a par ailleurs un mélange délicat entre la politique, les intérêts financiers et la presse. Il y a eu beaucoup de scandales. Le scandale de Panama. On fait chanter des hommes politiques, quand on est journaliste, certains, en disant « je sais beaucoup de choses sur vous, si vous voulez qu'elles ne soient pas publiées, faut me payer ». Les journalistes aussi sont attaqués sur le côté « je feuilletonne sur les pires faits divers » avec des descriptions épouvantables. Et le couronnement, j'allais dire, c'est le bourrage de crâne, c'est-à-dire le mensonge d'État, le caviardage des papiers. On n'a pas le droit de dire un certain nombre de choses.
Et les journaux pour lesquels travaille Albert Londres sont quand même des journaux qui ont toujours un très gros tirage.
Il faut néanmoins reconquérir un public qui montre, comme on dit aujourd'hui, sa défiance. Et le reporter est le personnage clé pour reconquérir ce lectorat. Il va, en témoignant ici et là, et en montrant de plus en plus, y compris par la photo, qui va monter de plus en plus en puissance, surtout au moment des années 30, eh bien, oui, la presse va commencer à reconquérir le public qui trouvait que décidément, non, elle allait dans les pires choses pour l'argent.
Il y a, à ce moment-là, du fait de cette crise de la presse dont vous parlez, une grande concurrence entre les titres. Oui. Comment cela influence le travail d'Albert Londres ?
La concurrence entre les titres a toujours été une constante. C'est une constante. Le travail d'Albert Londres s'en ressent parce qu'il faut trouver des sujets qui soient différents. Albert Londres va commencer à se détacher de ce qu'on appelle aujourd'hui le news, c'est-à-dire l'événement du quotidien, qui a toujours été sa règle de conduite, d'être là où ça se passe. C'est lui qui va choisir, en fait, ses sujets d'enquête. Et ça va être les asiles psychiatriques, le bagne pour les civils, le bagne pour les militaires qu'on surnomme Biribi. Et donc, sont des immersions longues, de grandes enquêtes, ardemment préparé par Albert. Mais il y a un moment où, effectivement, Albert fait le choix de la longue distance, de la longue durée.
C'est à Kyoto, hanté de temples et de jardins, qu'à travers des rues dont le silence était seulement troublé par un bruit de petits bancs en marche, qu'entre des maisons basses, à la vie mystérieuse et aux planches rougeâtres, je commençais mon chemin de néophyte dans ce monde inconnu. Tout de suite, je fus l'objet d'un singulier étonnement. J'étais un homme qui venait de perdre son nom. Quand l'été, les indigènes de Paris vont à la campagne, les regardant passer, dit « Ce sont les Parisiens ». De même, j'avais l'habitude d'avoir mon nom à l'étranger. On disait « C'est le français ». Subitement, je n'étais plus rien. « Français ». Expliquai-je du ton de quelqu'un qui se nomme pour se faire reconnaître. C'est comme si je m'étais écrié « Je suis l'envoyé extraordinaire de la planète Mars, d'où le premier d'entre tous les Martiens, je descends à l'instant même avec mes deux valises. » Tout ce peuple vif n'avait jamais entendu parler de la France. J'étais le citoyen d'un pays honoraire. Un horizon nouveau s'entr'ouvrait à mes yeux. Le voile de mon ignorance se déchirait. Enfin, je voyais clair.
Évidemment, le choix du sujet est très important parce qu'il doit plaire au public de l'époque, il doit rassembler le public de l'époque.
Sophie Desmoulins, docteur en littérature française.
Donc, dans la deuxième partie de carrière, là, ça va vraiment être un choix, prémédité, concerté avec sa rédaction, qui doit répondre à plusieurs critères. Alors, premièrement, s'inscrire dans les thématiques en vogue de l'époque pour plaire au lectorat de masse. Alors c'est pour ça qu'on trouve beaucoup de reportages qui accordent une large part à l'exotisme, au voyage. Évidemment, ce sont des thématiques qui plaisent énormément aux lecteurs de l'entre-deux-guerres. L'Afrique, l'Orient, tout cela fascine le lecteur de l'époque. On voit aussi des thématiques en vogue comme celle des lieux de détention, la prison, les asiles, tout ça, ce sont des lieux d'enfermement qui intéressent aussi énormément le public à l'époque. Donc, dans la deuxième partie de sa carrière, à partir du moment où il a acquis une certaine notoriété avec Aubagne, où il travaille au Petit Parisien, Albert Londres et son rédacteur en chef, dont il est très proche, il semblerait qu'ils vont s'orienter vers des thématiques qui peuvent susciter un scandale ou au moins une campagne, un mouvement d'opinion publique. Donc, c'est le cas pour Aubagne, hein, c'est également le cas pour les pénitenciers militaires, les asiles et encore plus Terre d'Ébène, qui est ce reportage qui dénonce le système colonial en Afrique noire.
À quel moment Albert Londres commence à se mettre en scène lui-même dans ses textes ?
Ça commence réellement, on va dire, lors de son voyage en Extrême-Orient. Donc ce voyage se passe en 1920, il est très long et il va avoir beaucoup plus le temps d'écrire. D'ailleurs, là, à partir de là, la méthode change, il n'écrit plus comme au cours de la guerre sur place, mais plutôt après l'enquête. Il y a un temps de décantation et il va commencer sa rédaction sur le trajet retour, en bateau, généralement, ou alors même une fois revenu en France. Et là, on commence à avoir une vraie mise en scène de soi. La présence du jeu devient plus importante, J-E, hein. Et ça commence vraiment avec cette forme d'humour, c'est-à-dire que Albert Londres est la première cible de son ironie. Il aime se mettre en scène sous les traits du naïf qui arrive sur les lieux d'un reportage, qui subit le climat, qui subit les désagréments de la route, qui se perd. Voilà, il y a cette mise en scène de l'infortuné voyageur. C'est lui-même qui s'appelle comme ça. L'infortuné voyageur, le martyr des grands chemins. Il aime se mettre en scène sous ses traits. Et puis, c'est aussi le fait d'être un homme ordinaire qui apparaît dans ses reportages. Un homme comme son lecteur, très proche de son lecteur, qui arrive sur des lieux étrangers et qui se perd, qui découvre. Donc là aussi, on peut y voir une tentative de rapprochement avec le lecteur lambda, le lecteur ordinaire, finalement, qui constitue son lectorat.
C'est en ce sens qu'Albert Londres est le correspondant de guerre anti-gilet à multipoches, comme on dit souvent, pour faire la caricature des correspondants de guerre, assez injuste, mais qui parfois a eu lieu dans une sorte de machisme exacerbé. Franchement, Albert Londres, ça n'est pas ça. Et donc, oui, à chaque fois, je suis en amitié avec cet homme. Je parle du lecteur. Il n'a jamais pris l'avion. Il ne sait pas nager. Il ne sait pas parler une seule langue étrangère. Mais c'est fou comme il me ressemble. Et néanmoins, il fait des trucs absolument fous. D'être sur des bateaux de pêche environnés par des torpilles, de voir tout à coup des bateaux disparaître en pleine guerre 14-18 et dire à la fin « bon, j'ai eu de la chance ». Voilà, c'est une inconscience sympathique.
Ma joie est sans mélange, j'ai trouvé mon Eldorado. Il est des hommes cupides qui s'en vont par le monde pour épouser des mines d'or. D'autres, aimant la lumière, pourchassent les puits de pétrole. Des troisièmes, une lanterne entre les deux yeux, attendent, vibrant des nuits entières aux lisières émouvantes des jungles, un rendez-vous secret avec le tigre noctambule. Moi, votre petit serviteur, je cherchais le pays sans maître, la ville chimérique de l'anarchie totale. Dieu m'a comblé, je la tiens, c'est Pékin.
Sophie Desmoulins, est-ce que le fait justement de se mettre en scène, de parler à la première personne du singulier, de dire « je », cette subjectivité qu'il met en avant dans ses reportages, est-ce que ça ne crée pas une distance par rapport à la vérité, par rapport à la réalité de ce qu'il voit ?
Alors, il n'y a pas vraiment de tension entre la vérité et la subjectivité chez Albert Londres. L'objectivité journalistique, c'est assez récent, c'est assez moderne comme concept. Et finalement, à l'époque, ce qui compte, c'est d'avoir vu. Le grand reportage, il a construit sa légitimité sur le culte du vu, sur le fait que il y a un reporter, une personne qui va sur place, qui va voir et qui ensuite va témoigner. Donc, dire « je », ce n'est pas dégradant pour les lecteurs de l'époque et même pour les critiques de l'époque, bien au contraire. C'est pour ça qu'Albert Londres, finalement, est plutôt bien vu des défenseurs de la presse d'opinion de l'époque, puisqu'ils y voient un journalisme de la subjectivité. Le fait de mêler faits et commentaires dans ces reportages, c'est particulièrement positif.
Alors ça, ce sont ces carnets de notes, tout petits carnets. Parfois, c'est des petits, c'est un mot par-ci, par-là. La manie, la mélancolie, compassion, les psychoses. Oui, bon, c'est des notes comme ça, par-ci, par-là. Alors évidemment, tout le temps, vous avez le mot folie, malade mental.
Pierre Assouline, comment est-il sur le terrain ?
Sur le terrain, Albert Londres est quelqu'un qui se promène. Il n'agresse pas. En fait, il se fait discret. Il écoute, il observe beaucoup. Il pose des questions. Il y a des photos où on le voit en reportage. Il se fond dans la masse. Il ne donne pas l'impression d'être un journaliste comme une pièce rapportée. Non, il se fond dans la masse, que ce soit dans des tranchées, dans des guerres étrangères, ou que ce soit sur la grande place de Marrakech, quand il avait fait Biribi, les bagnes militaires. Et on le voit parmi les gens. Il a les mains dans les poches, il a sa pipe ou son cigare ou sa cigarette, il prend son temps.
Ça, c'est ceux de Juif Ferrand.
Juif Ferrand est arrivé, c'est un formidable reportage, formidable. Je lis dans le carnet « Les réclames lumineuses en hébreu ». Herzl voyant son rêve se réaliser.
Herzl, qui était donc le perditionniste.
Théodore Herzl, perditionnisme politique. C'est inouï, hein.
Il y a quelque chose d'émouvant aussi de voir ces carnets.
Émouvant. Incroyable. Il avait, au cours d'un reportage, il avait, en Europe, il avait découvert la pauvreté, la misère absolue des ghettos d'Europe centrale, notamment en Pologne, en Lituanie. Et il savait que certains d'entre eux quittaient cette misère pour la Palestine. Et il a embarqué, il les a suivis, il les a accompagnés jusqu'en Palestine et à Jérusalem. C'est drôle parce qu'il a même noté, là je vois le carnet, des mots d'hébreu en phonétique. Todaraba, merci bien. Ken, oui. Lo, non. Alors que l'hébreu était balbutiant. Hein. Il a été à Foula. Regardez, c'est formidable ce carnet. Hein. Je ne sais pas s'il y en a plusieurs.
Il y en a 7 sur le juif errant.
Oh oui, 7, ah, dis donc. Lefkowitz. Il note des tas de noms. Ouais. Il est très sensuel. Hein. Il est charnel et sensuel. Et les carnets montrent bien toutes les couleurs, tous les parfums et les odeurs, il les note, pour pas oublier. Parce que c'est ça qui donne de la vie à un grand reportage.
À 36 degrés sous zéro, il faut se raser la moustache. Autrement, elle devient trop lourde à porter et cela vous fatigue. Vous n'avez plus de poils sous le nez, mais des glaçons. Plus vous soufflez pour les faire fondre, plus les glaçons engraissent. La buée animale ne peut lutter contre le frigorifique de la Bohème. Ainsi, bonhomme de neige à Liège, dans Prague, on peut se raser. On hésite à se couper le nez, les oreilles et les 10 doigts des pieds. J'y venais saluer le cimetière juif et la synagogue.
On retrouve dans le carnet la même bienveillance que dans son reportage. Il voit dans cette Palestine qui va devenir Israël la façon de sauver les Juifs de la misère. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va contre la doxa habituelle du Juif homme d'argent, du Juif dominateur, du Juif banquier, qui est la caricature permanente de la presse antisémite de l'époque, hein, c'est-à-dire la libre parole d'Edouard Drumont, des ligues anti-juives, il y en avait beaucoup, et qui dépeignent toujours les juifs comme étant l'argent, 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 alors que la majorité d'entre eux étaient dans la misère.
Sophie Desmoulins, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre le fait qu'Albert Londres tient un positionnement engagé, on le sent dans ses reportages tout le temps, et le fait qu'il travaille dans des journaux qui se disent souvent apolitiques?
On peut parler, me semble-t-il, de recherche du consensus dans les reportages d'Albert Londres. Ça peut paraître paradoxal de parler de consensus, alors même que l'image d'Albert Londres est associée à celle du redresseur de tort, alors même que l'une des phrases que l'on entend le plus souvent à l'endroit d'Albert Londres, c'est « porter la plume dans la plaie ». Il est associé à toute cette mythologie du combat. Pourtant, il y a certes une visée argumentative, même parfois une tension polémique dans ses reportages, mais en même temps, il doit faire en sorte que les thèses qu'il défend soient acceptées et acceptables pour le large public auquel il s'adresse.
La forêt, le terrifiant royaume des coupeurs de bois. J'ai quitté Abidjan à la recherche d'un chantier. On ne respire pas tout à fait à son aise dans cette Côte d'Ivoire. On dirait que l'on est sous une cloche, comme si les hommes demandaient à mûrir. C'est beau, la forêt. C'est beau, vu de la route. Entre Abidjan et Dabou, je trouverai mon affaire. Mais je ne suis pas du pays. Je tâtonne. Des poteaux en bordure annoncent Tiama, 57. Plus loin, Mouchi Banaï, 80. Ma carte ne porte ni Tiama, ni Mouchi Banaï. Ce n'est qu'en lisant Acajou 47 que j'ai compris qu'il s'agissait d'arbres et non de villes. Ce n'était là que le Bristol des prospecteurs. Où est le chantier? Je ne puis me lancer au hasard sur les pistes. Je m'égarerai, m'endormirai. Les fourmis magnans qui ne sont pas difficiles me mangeraient. Les nègres que je rencontre, je les arrête. Je fais appel à mon langage international, imitant l'homme qui abat un arbre, celui qui tire les billes. Tous comprennent. Cependant, ils viennent du fin fond de la Côte d'Ivoire. Eux aussi ne sont pas d'ici.
Il a un regard qui est finalement dans l'air du temps. Il est d'ailleurs très empreint de ce qu'on pourrait appeler le préjugé de civilisation. Quand il parle des Africains, il dit que la France doit les éduquer. Il parle de ses enfants. Il parle des Français comme éducateurs. Donc on voit bien qu'il est empreint lui-même de ce qu'on appelle avec du recul le préjugé de civilisation, c'est-à-dire la certitude que la société française est quand même supérieure, que la colonisation est nécessaire. Bien sûr qu'Albert Londres dénonce les méthodes coloniales. Bien sûr qu'il critique très vertement les abus, la manière dont les colons traitent les Africains. Mais en même temps, il ne remet en aucun cas en cause le principe même du colonialisme. Lui, il va proposer un autre idéal de la colonisation, c'est une forme d'humanisme colonial. Donc on a cette forme de consensus dans le sens où, oui, il dénonce, mais il reste tout de même dans l'idéologie dominante.
Oui. Les problématiques sociétales, elles arrivent en 1923, et à partir de ce moment-là, à mon sens, il y a un changement vraiment de perception. Il s'est laissé modeler par le terrain aussi.
Nous arrivons au kilomètre 24. C'est le bout du monde. Et pour la première fois, je vois le bagne. Ils sont là, 100 hommes, tous la maladie dans le ventre. Ceux qui sont debout, ceux qui sont couchés, ceux qui gémissent de douleur. La brousse est devant eux, semblable à un mur. Mais ce n'est pas eux qui abattront le mur, c'est le mur qui les aura. Ce n'est pas un camp de travailleurs. C'est une cuvette bien cachée dans les forêts de Guyane où l'on jette des hommes qui n'en remonteront plus. 24 kilomètres dans ces conditions-là, mais c'est magnifique en 60 ans. Dans 4 siècles, nous aurons probablement réuni Cayenne à Saint-Laurent-du-Maroni et ce sera plus magnifique encore. Pourtant, la question serait de savoir si l'on veut faire une route ou si l'on veut faire crever des individus. Si c'est pour faire crever des individus, ne changez rien, tout va bien. Si c'est pour faire une route...
À ce moment-là, il est isolé à Cayenne, il est logé chez le gouverneur. Il va consulter du coup les dossiers des bagnards, les dossiers administratifs, et il va décider de s'entretenir avec eux. Il va composer des portraits qui le rapprochent des hommes, en fait. Il va aussi les photographier.
C'est vraiment l'individu qui l'intéresse à ce moment-là.
À ce moment-là, oui. D'ailleurs, son ombre se projette sur certains clichés dès cette période. Et en fait, le rapprochement physique du sujet engage une nouvelle grille d'analyse du récit. Et du coup, contrairement à ces carnets de reportage qui sont rédigés dans l'instant, Londres, il va réorganiser les faits et ensuite il va pouvoir argumenter de façon critique puisqu'il a fait un classement des choses, un classement des événements, un classement des lieux, un classement des gens, un classement des personnages finalement. Il y a un protocole d'écriture qui fonctionne à ce moment-là comme un mouvement de zoom avant. Il recadre, il réduit la distance et il expose l'altérité, l'autre. C'est-à-dire que chez Albert Londres, rien n'est jamais blanc et rien n'est jamais noir.
Aucun forçat ne mange à sa faim. Mais les autres ne font rien. Ceux-là n'ont plus la force de lever la pioche. Ensuite, ils sont pieds nus. On met, pour ouvrir la route, des misérables qui ne peuvent plus marcher. En plus de cela, un mal les mine. Ce mal s'appelle ankylostomiase. Ce sont des vers infiniment petits qui désagrègent l'intestin. Tous les bagnards en sont atteints. Ah, ce teint de chandelle, ce ventre concave, ces yeux agrandis, Pour eux, la quinine étant considérée comme un bonbon, on ne leur en donne que lorsqu'ils sont sages. Alors la fièvre accourt, tambour battant dans ce champ de bataille. Les travaux forcés, oui. La maladie forcée, non. J'entre dans une case. Sur 100 travailleurs, 48 aujourd'hui sont abattus. Sous des moustiquaires noirs de crasse, mais trop petites, leurs bras dépassent, leurs pieds dépassent, et la plus infernale invention de Dieu, le moustique, mène là sa danse. Les forçats ne me voient pas passer, même ceux qui regardent. La fièvre les a emportés dans son cercle enchanté. Ils gémissent, et l'on ne sait si leurs gémissements sont un chant ou une plainte. Ils tremblotent sur leurs planches, comme ces petits lapins mécaniques quand on presse la poire. Ce sont les terrassiers. Quand on veut faire une route, on s'y prend autrement.
Biribi est tombé sous les coups d'Albert Long. Le bagne a changé de nom, il n'a pas disparu, car il est remplacé par une maison centrale dont le nom est Clairvaux, ce qui veut dire tombeau.
Il y a une erreur qui est souvent répétée hein, depuis le temps, comme quoi ces articles sur le bagne auraient fait fermer Cayenne. Non, ça a fermé bien plus tard, ça a fermé après la Seconde Guerre mondiale. Mais ça a été l'écho, en résonance, des articles de Londres et aussi d'autres grands reporters qui ont été aussi au bagne, qui ont fait des dénonciations. Il y en avait quelques autres. Il faut citer Béraud, Henri Béraud, Édouard Elsé, Alexis Danan, Joseph Kessel, et puis André Violis, Tita Aina. Mais ces femmes-là et ces hommes-là ont fait bouger les lignes. Mais ça n'a pas été immédiat et radical. Non. Le grand reportage à l'époque, ça use. Ça use parce que les conditions de voyage, c'est difficile. Et les conditions de reportage sont difficiles. Davantage que maintenant, je pense. Et ça l'a fait vieillir prématurément, oui, certainement. Je pense qu'il y a une part de désenchantement, un petit peu. Vous savez qu'il voulait arrêter, hein. Son reportage mystérieux sur la Chine, le deuxième, il disait, après j'arrête. J'ai fait ma carrière, j'ai gagné ma vie, etc. Maintenant, ce que je veux, c'est publier ça. Ça va faire un boucan d'enfer, un énorme scandale. Et après, je me retire, cette fois c'est sûr, du côté de Vichy pour être près de ma fille et de ma famille, de sa mère, et pour écrire. Donc probablement pour écrire des livres. Parce que les livres qu'on trouve en librairie aujourd'hui d'Albert Londres, ce ne sont pas des livres écrits pour être des livres. Ce sont des reportages colligés et ça donne des livres. Mais je pense que là, il voulait s'installer pour écrire vraiment des livres. Et ça lui avait été proposé par Albin Michel.
Si Albert Londres pouvait visiter les centrales, il écrirait sûrement plus de 200 romans qui ouvriraient peut-être les yeux fermés de la France qui ne s'inquiète guère de ses bagnes militaires.
Hervé Prussigny, que fait Albert Londres en Chine en 1932 ?
Personne ne le sait. Il y a eu beaucoup de théories qui ont été échafaudées. Il s'intéresse beaucoup, en fait, au conflit entre la Chine et le Japon. Est-ce qu'il est là pour montrer que, décidément, il y a des intentions belliqueuses terribles du côté japonais? Est-ce qu'il est là pour parler de trafic, de drogue? Très franchement, les vérités définitives n'existent pas sur cette affaire. Et donc, il y a un mystère. Parce qu'Albert ne va pas bien à cette époque. Albert a essuyé un échec, semi-échec avec les pêcheurs de perles et il voulait, là-bas au Proche-Orient, pénétrer la Mecque, il n'a pas pu. Il a essayé de retrouver les commis Tadji, ces groupes terroristes d'Europe centrale. Ça n'a pas forcément très bien fonctionné. Alors, il s'est lancé dans cette affaire qui reste un point d'interrogation. Et hélas, ce jour du 15 mai, plutôt cette nuit-là, eh bien, le feu va apparaître, se déclencher dans plusieurs endroits du bateau. Il fait 170 mètres, hein, c'est un monstre, c'est un énorme truc. Le problème, c'est qu'on l'a mis à l'eau trop rapidement et que ce soir-là, les conditions météo sont étouffantes, humides. On a allumé toutes les lampes parce que c'est une grande fête, on passe un cap. Et donc, là, avec tout à coup le feu qui se déclenche, l'eau qui arrive, Albert ne fait pas ce qu'il faut, pas rapidement. Il dit non à une aide possible, il faut se jeter à l'eau. Mais oui, mais il ne sait pas nager. Que s'est-il passé? Pour lui en particulier, on ne le sait pas. Mais ce qui est notoire, c'est que les Français ont vu, y compris dans les salles de cinéma, des morceaux de films aux actualités où on voit le bateau en train de flamber. Car ça a duré pendant 2 ou 3 jours. Il y a un bateau soviétique qui est arrivé, un autre à ses côtés. Alors on a dit, vous voyez, les soviétiques, ils sont pour quelque chose. Il y a une sorte de théorie du complot total autour de cette mort, ce qui est un comble pour un journaliste épris quand même de réalité des faits. Mais donc sa mort, c'est aussi une mort en image.
Les chevaliers attitrés de la colonisation ont besoin de promener un cadavre sous les yeux du peuple de France. Un cadavre qui appellera les justes imprécations de l'initié et les pierres vengeresses du populaire. Ce cadavre est choisi. Horreur, c'est le mien. Je m'en irai ainsi, au gré du flot berceur, mon pauvre cher petit corps ligoté sur une planche de liège, la main droite coupée, coupable d'avoir écrit, les pieds carbonisés et mon dernier chapitre fleurissant entre mes dents comme une fleur vénéneuse. Pour moi, je n'ai plus que peu de choses à dire, et c'est ceci. Je ne retranche rien au récit qui me valut tant de noms de baptême. Au contraire, la conscience bien au calme, j'y ajoute, ce livre en fera foi. D'autre part, je demeure convaincu qu'un journaliste n'est pas un enfant de cœur et que son rôle ne consiste pas à précéder les processions la main plongée dans une corbeille de pétales de rose. Notre métier n'est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort, il est de porter la plume dans la plaie.
C'était Albert Londres, le journalisme avec vue. Avec Pierre Assouline, Hervé Brusini, Johanna Capi, Marie de Colombelle et Sophie Desmoulins. Merci aux équipes de France Bleu Limousin et au Prix Albert Londres. Merci également à Magali Lacousse et aux Archives Nationales. Archivina, Inès Barja. Documentation, Eva Karagatchev. Prise de son, Christophe Papon et Nicolas Bonnet. Mixage, Dofar Guéride. Lecture, Émile Abosolombo. Attaché de production Sylvia Favre, coordination Christine Bernard. Un documentaire d'Antoine Tricot, réalisé par Somanina.